Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'inspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. C'est business à contre-courant qui casse les codes et faut avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute! Salut Bastien!
Salut Charlie!
Alors je sais pas trop si je dois te présenter comme UX, UX designer, YouTuber, streamer. J'ai lu que tu utilisais le terme de vulgarisateur design web et mobile. Mais ça me plaît bien. Ouais. Pour une raison très simple. Parce que j'ai l'impression que le monde du design, encore plus celui de l'UX, se prend pas mal au sérieux. Et que ça en devient presque inaccessible. Et justement, tes contenus à toi, ils sont, même en restant très éducatifs, très intéressants, ils sont amusants. Parce que moi, j'éclate souvent de rire en regardant tes lives et tes streams.
Tant mieux.
Et justement, avant d'être freelance à 100%, des vidéos, t'en as fait un paquet à travers ta chaîne Bastiui. Et on va en reparler de cette chaîne. Mais avant de parler de ton business et de cette chaîne, justement, j'ai une question capitale pour toi. Et cette question, c'est, j'ai découvert par hasard ta passion pour la cuisine et tes présentations laser. Et je me demande, c'est quoi ton plat préféré, Bastien ?
Eh ben déjà, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation et cette belle présentation. Effectivement, je fais des petites stories Instagram où j'aime bien présenter un petit peu la nourriture parce que je trouve ça très esthétique, un peu comme quand on présente son design. Et honnêtement, je pense que mon plat préféré, je pense que c'est cuisine asiatique, sûrement tout ce qui est sushi en ce moment. J'aime beaucoup. Okay. C'est pour la simple et bonne raison que je ne sais pas en faire ou quand j'en fais, c'est pas aussi bien. Et je pense que c'est pour ça que je l'apprécie. Tout comme une musique, quand on ne sait pas encore la jouer ou on ne connaît pas encore les accords, elle est un peu plus mystérieuse pour nous et encore plus agréable. Et quand on commence à l'apprendre et à comprendre, ok, là c'était un là, là il y avait ce rythme-là, bah, elle perd un peu de sa... Elle se démystifie, quoi. Donc je dirais qu'en cuisine, c'est un peu ça que je préfère en ce moment. Cuisine asiatique et tout ce qui est un peu froid, sushi et tout ça.
Ok, c'est vrai que c'est compliqué les sushis, mais c'est vrai que l'accomplissement du résultat, même s'ils sont un peu foutraques visuellement.
Ah ouais, non, mais ce qui m'agace le plus, c'est visuellement quand t'en fais toi-même, ouais. C'est catastrophique, hein. T'as un vieux rectangle avec le topping posé sur le riz qui se casse la gueule, alors que tu vois le mec dans les restos, c'est impressionnant, il passe de main en main, le truc est tout le temps la même taille et tout, je trouve ça hyper hyper satisfaisant quoi.
Je me dis que c'est le genre de truc qui doit aussi satisfaire pas mal ton esprit de designer en mode c'est bien carré, c'est bien propre visuellement, c'est ouais.
Ouais, quand tu commandes des sushis au resto, sur dans des petites bento box, ils sont triés par taille, par couleur et tout. Quel plaisir.
Assez parlé de cuisine, car là n'était pas l'objet. Ouvrez-la se transforme en podcast culinaire. C'est nouveau. Donc c'est le moment pitch pour toi, Bastien. Tu vas nous expliquer ce que tu fais et ce qu'est Bastiui, ta chaîne, en une minute.
Ok, top chrono. Donc ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
Ok. Je suis créateur de contenu sur le sujet de design d'interface. Je suis présent sur plusieurs réseaux sociaux, mais principalement sur YouTube où je fais des vidéos et sur Twitch où je partage mon travail au quotidien. Et pourquoi travail au quotidien ? Parce que j'ai décidé de ne pas arrêter mon travail, de continuer à prendre des projets pour des clients et à les partager avec ma communauté. Pour éduquer, pour vulgariser et pour transmettre. Voilà, et je monétise un peu tout ça sur différents endroits. Les vidéos en elles-mêmes, les sponsors en eux-mêmes, mais aussi le travail que je continue à faire pour continuer à mettre la main à la pâte et pas devenir, on va dire, un apprenant qui n'est plus sur le terrain et du coup qui raconte n'importe quoi. Voilà.
Tu as respecté le créneau des nuques avec brio.
J'ai pas respiré.
Attends.
Ça va mieux.
Ça va mieux.
Ouais.
Tu t'en es bien sorti. T'avais révisé ou pas?
En vrai, j'ai pas révisé, mais non. J'explique souvent ça. Et là, juste avant de démarrer le podcast, j'étais en train de faire les retours sur le montage de ma prochaine vidéo qui parle de ça justement. Elle devait sortir en janvier, mais il y a eu des petits contretemps. Mais en gros, c'était mon bilan de l'année dernière. Sur mon entreprise qui est toute nouvelle, sur comment j'agence mon temps, qu'est-ce qui me fait gagner de l'argent, comment j'ai organisé mon truc et tout. On me pose souvent cette question. Je suis souvent invité dans des podcasts justement pour ce côté un petit peu pluridisciplinaire et un petit peu travail plus contenu. Et donc, ouais, j'ai pas révisé, mais je l'ai un petit peu en tête.
En même temps, ça fait un petit moment que tu pratiques. Ça me rassure que tu maîtrises un peu ce sujet-là, quand même.
Oui, c'est savoir expliquer ce que je fais. Après, expliquer ce que je fais à des gens qui sont pas du milieu, qui sont ni designer slash ni créateur de contenu, ni proche d'Internet. Là, il va falloir développer pas mal de points que j'ai dit en une minute parce qu'ils vont me dire qu'est-ce que c'est que tu racontes quoi? Pourquoi tu gagnes de l'argent avec ça, etc.
Ouais, comment ça peut fonctionner, quoi.
Ouais.
Intéressant, on y reviendra peut-être.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que ça n'est pas Bastiwi, à quoi ça pourrait s'opposer?
S'opposer.
Ouais.
C'est difficile parce qu'il y a plein de choses que ce n'est pas, quoi, tu vois. Mais c'est plus trop des tutoriels.
Ouais.
Étant donné que mais c'est comme ça que j'ai démarré, donc j'aime pas trop dire ça parce que l'essence elle est toujours là, mais c'est quand même dédié à c'est dédié à s'intéresser à un plus grand public, le plus grand public, bah, c'est dédié à s'intéresser au plus grand public possible et à plaire aussi aux experts, mais ce n'est pas une chaîne de tutoriels. Néanmoins, je donne des formations d'entreprise à côté pour ceux qui veulent avoir mon savoir-faire qui existe. Je donne des formations privées. Mais en tout cas, Bastivi sur Internet, ce n'est pas ça, quoi. Je le mets pas en avant et tout. Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est très dur comme question, en vrai.
À défaut de ce que ça n'est pas aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voudrez pas que ça devienne?
Ah.
Je vais te guider un petit peu parce que
Ouais.
j'avais prévu d'en discuter à la fin de l'interview, mais tu as parlé de l'effet Thibaut InShape, cette idée que plus tu veux atteindre un grand nombre de cibles sur YouTube, hein, j'entends, plus tu veux toucher le plus de monde, plus tu es obligé d'étendre le spectre de tes sujets,
C'est vrai.
moins tu es spécialisé et plus tu dois vraiment discuter de tout et de rien, quoi. Tu
Je
prenais
comprends.
l'exemple de pas Bastien, mais tu vois Thibaut InShape qui parlait de golf ou je sais plus quoi. Je dis, mais oui,
Ouais.
ça n'a rien à voir avec la choucroute. Est-ce que ça, parce que je sais que tu en as conscience que c'est une obligation, mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou qui te fait envie quelque part pour ta chaîne?
Bah déjà, pour répondre à la question, parce que j'ai un peu réfléchi pendant que tu parlais, j'allais dire, Bastiwi, ça ne deviendra jamais une agence. Parce que déjà, côté production, on m'a dit, mais pourquoi t'as pas des employés, comme ça tu prends plus de projets de design et tout. En fait, j'ai pas envie de faire ça parce que ce serait reproduire le schéma de CDI que j'ai quitté et qui me plaisait pas trop. Prendre plus de clients, plus de projets, puis déléguer et tout et tout. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, continuer à faire des projets pour pouvoir en parler, ça m'intéresse, tu vois. Donc c'est différent, tu vois. Je pourrais embaucher 4 designers et puis tous les gens qui me contactent, Bastiwi, bah, je le fais faire à mon équipe et moi je vérifie la qualité, j'envoie au client. Ça m'intéresse pas, tu vois. Et d'un autre côté, pour parler du côté, on va dire, Thibaut InShape, ça m'intéresse pas de faire une chaîne de divertissement non plus, quoi. C'est-à-dire que j'aimerais quand même rester dans ma niche. Néanmoins, on peut quand même en discuter un petit peu. Ce que fait Thibaut InShape, c'est qu'il a commencé avec une niche, puis il a étendu, étendu jusqu'à faire du divertissement. C'est-à-dire que lui, sa fin, son objectif en soi, c'était d'avoir le plus possible de vues et d'abonnés. Donc, qu'est-ce que tu fais au début? Bah, tu parles de ce que tu connais parce que tu essayes de construire une audience. Puis, quand tu as une audience, tu essayes de l'élargir et de lui montrer ce qui peut l'intéresser aussi. Ce qui est une très bonne chose en soi. Moi, si je te capte avec le design d'interface, mais que je te parle d'une de mes autres passions, si je t'ai capté à la base et que tu regardes mon contenu, tu peux te prendre de passion de mes petits montages culinaires pour faire une photo, tu vois. Par exemple, tu vois. Après, moi, c'est pas une fin en soi, c'est sûr. Mais néanmoins, j'essaye quand même d'élargir au maximum mon audience pour devenir, on va dire, le plus vulgarisant possible. Et mon ambition, ce serait plutôt d'être invité à des événements, sur des chaînes YouTube, sur des chaînes Twitch, à la télé ou dans des événements où il faut discuter de tout ça, comme référent de ce type de sujet. Ça, ce serait très intéressant, tu vois. Mais je veux pas non plus m'enfermer dans juste faire des tutoriels de graphisme et de design, tu vois.
Ça me permet de faire une transition avec la question suivante. Justement, être invité dans des événements pour parler de ce que tu fais, c'est pas ce qui t'est arrivé. C'était avec Micode, c'est ça?
Ouais,
T'as
tout à
été
fait. Alors.
invité chez lui. Enfin, ça t'est tombé comme ça dessus en plein live.
Ouais, tu veux
Et
que je te
ça a
raconte?
amorcé. Bah, raconte-nous. Et puis raconte-nous un peu justement. Bah, comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat, comment toute cette histoire a été créée, comment j'ai l'impression que cet événement a joué un rôle majeur, quoi.
Ouais, c'est un moment assez charnière justement, parce que à cette époque-là, j'étais en CDI temps plein et je faisais mes petits tutos sur YouTube et de temps en temps, parce qu'en fait j'étais juste passionné par YouTube aussi, donc tout comme toute personne qui se lance, bah, je parle de ce que je sais faire, puis je tente des choses. Il y a des vidéos qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Celle qui marche le mieux, c'est celle où je fais des tutos, où j'explique les nouveautés des logiciels. Ça crée une toute petite audience et tout. Et après arrive le confinement, où en fait, donc c'était mars 2020, où bah, tout le monde est un peu coincé chez lui. Je vais la faire en rapide parce qu'on connaît tous un peu la chanson. Et c'est là où je me suis mis à faire des live Twitch. Et les live Twitch, en fait, ils sont venus parce qu'avant, je faisais beaucoup de conférences, de meet-up le midi, de trucs comme ça où je partageais ma veille, où je partageais la veille des autres. Par exemple, « Ah, t'as vu Adobe XD, ils ont fait une mise à jour. Ah, t'as vu ce nouveau logiciel. Ah, t'as vu cet article. » On faisait ça le midi, le soir et tout. J'allais dans des assos, dans des lieux. Enfin, tu vois, il y avait un truc de partage. Et à l'époque, c'était en présentiel, en humain, tu vois.
Ouais.
Et ça s'est arrêté d'un coup. Et je me suis mis à faire des live Twitch, trois par semaine parce qu'on était confinés. Et je faisais la petite veille de Bastien où je montrais les nouveautés. Et puis après, je travaillais pour un client et tout. Et donc, ce début d'activité sur Twitch m'a fait un petit peu connaître un peu plus aussi. À cette époque-là, surtout que bah, les gens, ils consommaient beaucoup Internet parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire dans cette période-là. Et c'est comme ça que MiCode est tombé sur moi. Et donc, j'étais, je me souviens, en live un mercredi. Il faut savoir que le confinement s'était terminé à ce moment-là, c'était juste l'ellipse, ça faisait un an que je faisais du Twitch à cause de ça, quoi.
Ouais.
Et j'avais posé mon mercredi parce que j'avais un truc à finir pour je sais plus quel client et tout, donc j'avais posé un RTT, j'étais en live, et il y a MiCode qui est arrivé dans mon chat Twitch et qui a dit « Yo Basti et tout, t'es dispo ce soir ?» J'étais en mode « Lol, il est 11h30 tu vois, du matin, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tu veux faire l'émission underscore et tout ça, machin ?» Pour ceux qui ne connaissent pas, Underscore, c'est l'émission Twitch qu'a lancé MiCode aussi, plus ou moins pendant le confinement, où il invitait des personnes dans le milieu tech. Et à l'époque, il n'avait pas d'équipe, donc il était légèrement désorganisé. Et donc, il trouvait ses invités des fois un peu en avance et des fois, bah, comme moi, un peu tard. Alors, il avait déjà trouvé tous les autres invités, il leur manquait juste un, quoi. Ou un qui avait annulé, ou je ne sais pas, tu vois. Et donc il m'a demandé et du coup j'ai dit oui et je suis allé en voiture à Paris parce que l'émission finissait à 23h30, il n'y avait plus de train, donc je suis allé en voiture à Paris, j'ai fait l'émission, j'étais tout mignon, tout perdu, tout content, émerveillé, qu'est-ce que je fais là, je suis trop content et tout, très reconnaissant à tout le monde qui m'a invité, qui était là, et ça m'a fait réfléchir et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à mon agence si je pouvais passer au 4-5e. Parce que dans ma tête, je me dis, ok, il se passe quand même quelque chose au niveau d'Internet, de la création de contenu. Ok, j'étais invité par MiCode sur une émission qui faisait peut-être 1000 vues, un truc comme ça, 1000 viewers live et des dizaines de milliers de vues après.
Quand même.
Je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc, tu vois. Puis en plus, ils étaient super gentils là-bas. Ah non, mais c'est trop bien ce que tu fais, on te connaît depuis un petit moment et tout. Je faisais quoi ? J'étais en mode, voilà. Mais j'ai remarqué que c'est surtout Twitch qui m'a permis de sortir mon épingle du jeu dans cette histoire. Et donc je suis passé au 4-5e avec mon agence et ça a été le début de du coup je suis au 4-5e, du coup j'ai vraiment un jour par semaine à dédier à mon projet Bastivi.
Il y a un truc qui m'intéresse, c'est la façon dont t'as fait tout ça très progressivement, tu vois, t'as parlé de 4-5e, ouais. Je sais aussi que t'es passé au 3-5e quand t'as commencé à voir que ça marchait, tout en gardant ce rythme de Twitch et de travail en freelance. Et qu'après t'as décidé de finir en full freelance. Combien de temps s'écoule à peu près entre le moment où tu... Bah, le live, par exemple, avec MiCode, et le moment où tu dis, ok, j'y vais à fond, full freelance.
J'étais invité sur le plateau de MiCode en avril 2021.
Ok.
Et je passe au 3-5e en janvier 2022. Donc, il s'est écoulé une demi-année, à peu près. Peut-être trois trimestres, tu vois. Et je peux t'expliquer pourquoi, en fait. Parce qu'en fait, donc 4-5e... Je commence à avoir un jour de libre. Du coup, pendant ce jour de libre, je fais des lives le vendredi, du coup, dès le matin, tu vois, parce que c'est libre. Et je commençais à avoir des demandes de gens qui voulaient bosser avec moi.
Ouais.
Alors que moi, j'étais en CDI, donc je disais tout le temps, bah non, je suis en CDI, je sais pas. Et du coup, je commençais à prendre des projets en live le vendredi matin. Et c'est là où est né le format Télétra Live, où justement, je streamais mon travail pour des clients. Voilà. Et du coup, c'était ma ligne directrice. Si j'accepte des projets sur ce temps-là, c'est des projets où je peux faire du partage et de la création de contenu avec, parce que sinon, autant être en CDI, quoi. C'est pas du tout l'argent qui m'a motivé à être en freelance ou en CDI. C'est vraiment la création de contenu, quoi. Et donc, janvier 2022, je passe au 3-5e. Et juin 2022, je quitte mon CDI. Et pourquoi je suis passé au 3/5e? Tout simplement parce que ça s'est négocié avec mon agence, avec qui je voulais quitter en fin décembre 2021, donc en janvier 2022. Et ils m'ont dit, on comprend ton projet, on a bien vu, il n'y a pas de souci, on voit bien ce que tu fais à côté. Notre collaboration, elle s'arrête là, c'est très bien. Enfin, c'était une fin
Cordial,
de
quoi.
contrat hyper cordiale, tu vois. Ils ont juste dit, par contre, va falloir que tu restes encore 3 mois parce qu'il faut qu'on recrute ton remplaçant, que tu le formes un peu et tout machin. Et donc, ils ont dit, je peux comprendre que ce soit décevant et que tu sois pas motivé de rester 3 mois au 4/5e. Donc, ils m'ont dit, on va faire un pas en avant et tu passeras au 3/5e. Donc, ça s'est fait comme ça, quoi.
Cool.
Moi, c'était très cool.
C'est chouette d'avoir une entreprise qui soit flexible par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient avoir ce filet de sécurité, tout simplement, hein, que d'avoir un CDI à côté et te dire, même si ça marche pas trop, tu vois, je peux tester les eaux et voir comment ça se passe.
Je veux bien préciser un truc à ce niveau-là. Déjà, il faut savoir que, entre guillemets, malheureusement, j'ai beaucoup travaillé sur mon temps libre avant que tout ça arrive. Malheureusement, c'était aussi mon petit projet passion, mais il m'arrivait de le faire le soir, le midi ou le week-end, parce que faire des montages YouTube et des vidéos, c'était un peu le truc qui me passionnait. Ne le faites pas, si vous avez, ne faites pas un double job. Par contre, c'est vraiment une mauvaise idée de faire ça. Mais moi, je faisais parce que ça m'amusait. Et puis au bout d'un moment, ça s'est concrétisé. Donc voilà. Mais j'aurais pas fait ça à l'infini. En tout cas, ne vous fatiguez pas à faire deux travaux, enfin, du freelance et du CDI en même temps, deux jobs en même temps. C'est vraiment pas un bon conseil. Mais sachez quand même, il y a une petite partie de, voilà, je l'ai un peu fait sur mon temps libre parce que ça me faisait kiffer. Autre point sur la bonne entente avec mon agence. Il y avait une excellente entente parce que vraiment, je faisais le job comme il fallait. J'étais là depuis longtemps. J'avais créé plein de trucs. J'avais mis en place plein de trucs. Et ils voyaient bien juste que eux, ils n'arrivaient pas à me faire évoluer dans l'agence. Comme j'avais trouvé un terrain de jeu en dehors de l'agence. Donc, en étant très intelligent, ils ont bien vu, ils ont dit, bah voilà, on va laisser cette personne partir, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, 2022, contexte économique plutôt cool. Retour de Covid avec les boîtes qui sont boostées par le retour, avec toutes les subventions, les aides qu'il y a eu. Ça embauche, ça. Tout va bien, tout le monde retourne au travail. En plus, dans le numérique, bah, les projets pendant le confinement, bah, ils étaient à fond, quoi, parce que les gens utilisaient leur ordinateur à fond. En plus, moi, j'étais dans le e-commerce, donc dans le e-commerce, et tous les gens qui achetaient sur Internet, ça se passait bien. Donc, il y avait un contexte économique pour l'agence qui se passait très bien. Néanmoins, là, je parle avec mes viewers sur Twitch ces derniers mois. Je parle avec des amis qui sont encore dans des agences ces derniers mois. Plus aucune rupture conventionnelle. Plus, enfin, c'est un contexte économique en ce moment beaucoup, 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 beaucoup plus difficile, même un peu cata, dans les métiers, on va dire, designer en tout cas. Et donc, ça, comment t'as fait pour passer au 3/5e, au 4/5e, Basti? Bah, je raconte mon histoire. Ah, mais moi, ils veulent pas. Ah, comment t'as fait pour avoir une rupture conventionnelle, pour avoir ton chômage, pour pouvoir lancer ton entreprise? Ah, mais moi, ils veulent pas. Enfin, voilà, tu vois, il y a plein de trucs aujourd'hui, c'est plus du tout vrai, à cause, bah, des problèmes, on va dire, financiers que peuvent rencontrer les agences et tout ça, quoi. Voilà, je veux juste mettre cette parenthèse-là, parce que c'est un peu idyllique ce qui m'est arrivé, mais il y a eu beaucoup d'alignements aussi de
Des
planètes
planètes,
là-dessus.
ouais.
Ouais.
Bah c'est très bien, très important de le préciser. C'est lié que à la France, ça, parce que moi j'ai négocié des. Je vis aux Pays-Bas. Hein. J'ai
D'accord.
négocié des ruptures conventionnelles, un équivalent assez facilement, mais il y a un petit moment de ça. Et ça coûtait rien à l'employé, à l'employeur, pardon.
Ah ouais, non,
En
c'est en
France,
France,
ça
ah
coûte
ouais.
quelque chose.
Ouais, bah l'employeur, il doit. T'as un genre d'indemnité de départ qui va être à peu près 3 ou 4 mois de salaire, je crois, un truc comme ça.
Ah oui, obligatoirement.
Ouais, et il y a aussi. Je crois que c'est nouveau aussi. Alors là, les gens qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à me contredire parce que je vais dire un truc, mais j'ai pas du tout checké. Je crois qu'entre 2022 et aujourd'hui, donc 2024, il y a eu des quotas. Il y a des quotas de rupture
Oui,
conventionnelle maintenant.
j'ai entendu quelque chose comme ça.
L'État empêche de laisser les boîtes le faire un peu à l'infini parce que ça permet d'avoir le chômage et parce que bah ça gratte un peu de thunes un peu partout quoi au niveau de et au chômage non c'est trop cher non on va pas vous laisser avoir le chômage aussi facilement tu vois.
Ouais, et puis je pense que ça coûte, parce qu'il y a beaucoup de, pour le coup, d'entreprises qui utilisaient la rupture conventionnelle pour éviter de payer toutes les taxes liées au fait de licencier quelqu'un,
Oui,
chômeur ou
ça
pas.
existe
Et
aussi
du
hein.
coup, il y en a beaucoup qui faisaient ça. Et je pense que cette loi, je ne sais pas si elle est passée, mais effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose. Mais c'est important ce que tu précises. Je
Ouais.
voulais revenir sur ce que tu as dit sur ne faites pas un double job. Parce que c'est un peu contradictoire parce que tu dis, toi, j'ai kiffé, je l'ai fait par passion, j'ai adoré, mais tu dis, ne le faites pas quand même.
Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu veux devenir freelance et youtubeur, bah du coup, tu dois pendant 3 ans faire des travaux de freelance le soir et du YouTube le soir. Non, pas du tout. Moi, j'étais en CDI, j'étais très heureux. J'avais envie de faire du YouTube parce que ça me faisait rigoler. Je m'amusais trop. Je faisais pas de vues, ça m'amusait quand même. Et je faisais pas de vidéos pendant 3 mois. Et je faisais aucun projet à côté pendant 3 mois. Je kiffais. Et un jour, ça a commencé à un peu marcher. Et bah du coup, je posais des RTT pour en faire un peu, etc. Jusqu'à ce que ça marche. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que ça pousse les gens à se dire que c'est absolument ça qu'il faut faire, tu
Ok, c'est un passage obligé, quoi.
vois. Ouais, non, c'est pas obligé. C'est juste que moi, pendant 2 ans, je me suis amusé à faire des vidéos. J'ai invité mes potes à faire des vidéos avec moi. Enfin, tu vois, c'était
Ouais.
aussi marrant que boire un coup avec des copains ou aller faire du foot, tu vois. Mais juste, moi, des fois, on faisait des vidéos, on rigolait, on faisait des jeux. Des petits tutos, des montages rigolos. Et il faut que ce soit avant tout quelque chose qui vous fasse plaisir. Et c'est pour ça, quelque chose qui te fait plaisir, c'est pas un travail, tu vois. Par contre, si tu commences à avoir une contrainte en mode non, faut que ce soit fini pour vendredi, parce que le planning de publication YouTube, c'est 2 vidéos par semaine, sinon l'algorithme. Non, ça, j'ai jamais fait de ma vie, tu vois.
Ouais.
Juste, je faisais mon truc et voilà. Mais ça peut être rapidement aujourd'hui un truc en mode bah, je veux percer sur YouTube. Du coup, planning de vidéo, du coup, le soir, au lieu de voir des gens, je vais faire des montages. Enfin, tu vois, ça, c'est quand même un petit peu différent, tu
T'as dit que quelque chose qui fait plaisir, c'est plus un travail.
vois. Ouais.
Pour toi, c'est pas possible d'associer kiffer ce qu'on fait et prendre du plaisir dans le travail ou dans son travail?
Alors, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand tu fais quelque chose qui te fait kiffer, à ce moment-là, c'est plus un travail. Par contre, un travail peut être quelque chose de kiffant. En gros, faire des vidéos, c'est rigolo. Parler à la caméra, faire des montages rigolos, c'est marrant. Là, c'est le côté fun, donc c'est pas un travail. Par contre, quand tu as une deadline, un objectif de vue, tu payes un monteur, ça, c'est un travail. Parce que là, entre dans la danse plein de paramètres qui sont pas fun. Faire la compta, etc. Tu vois? Donc, c'est là où la nuance, tu vois.
Tu veux dire, à partir du moment où il y a un objectif de rentabilité et d'efficacité, c'est plus du kiff, quoi. Ou plus autant
Alors
du
si,
kiff.
ça reste du kiff, mais pas à 100%, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui fait un petit live Twitch après son taf pour rigoler avec ses copains et tout, il quitte son live, il a fait 3 viewers ou 300 viewers, ça va pas lui changer sa vie.
Ouais.
Enfin si, mais ça va pas être... Voilà. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté tout, j'ai un emprunt sur le dos, j'ai machin, mon loyer, je lance un live et les gens ils s'abonnent pas, je gagne 0 euros. Et t'as beau trouver ça fun de faire des lives, tu vas commencer à te dire, ah, c'est moins marrant qu'avant parce que c'est ma seule source de revenus, tu vois. Donc, il y a ce truc de travail-passion. Ta passion que tu faisais en bonus quand tu avais le temps libre et qui te faisait kiffer, ça peut devenir un travail et ça, c'est trop bien. Par contre, dans ce nouveau travail-passion, il y a quand même il y aura des petits points, la compta, les mails, les retards, les trucs qui seront pas agréables. Mais ça reste beaucoup plus agréable qu'un travail 100% pas passion où tu es 100% du temps. À pas kiffer. Là, je kiffe, bon, je sais pas combien, je sais pas de pourcentage, mais 80% du temps. Et 20% du temps, bah, y a quand même les factures, les retards, les machins. J'ai pas de projet, qu'est-ce que je fais, comment je paye ça. Tu vois. Mais ça n'empêche pas que c'est kiffant. Par contre, tant que tu as encore ton CDI, pour revenir au postulat de base, ne te mets pas un deuxième travail avec un planning de publication et tout.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire.
Parce que c'est bien ce que tu aussi dis un peu de façon sous-jacente, c'est que si t'as pas cette patience, si t'as pas cette envie, et si t'as pas ce kiff, bah t'auras pas l'énergie et après tout ce que tu vas avoir, c'est de la rancœur, de l'amertume et du stress parce que bah t'atteins pas forcément ce que t'as en tête, quoi.
Ouais, ou alors tu quittes ton taf pour le faire et tu le fais pendant 6 mois de façon 100% sérieuse avec en tête que ça peut échouer et que tu as peut-être investi tout ce temps pour rien, mais ça fait partie du truc aussi, quoi. Alors que des gens qui font des petites vidéos en plus pour leur plaisir, ça c'est très bien, tu vois. Genre, tu vois des chanteurs sur scène et puis tu chantes toi aussi bah, dans un petit concert dans la braderie de ton village. Quand t'en ressors, tu dis pas, oh non, ma carrière elle est foutue, tu juste t'as kiffé, t'as fait l'expérience de faire le chanteur, tu vois. Ou tu joues au foot avec tes potes, et puis dans ta tête, c'était la Coupe du Monde, donc t'as plein de trucs cool et tu kiffes, tu vois. Ça, c'est passion. Par contre, quand ça devient sérieux, que tu commences à chanter pour le travail, ah merde, j'ai plus de voix pour le concert de demain, Ah, bah, qu'est-ce qu'on fait pour l'album? Il doit être sorti dans 3 semaines. C'est pas la même chose, ça reste ta passion, mais c'est un travail, tu vois.
Mais est-ce que c'est pas justement le fait que ce soit d'abord une passion ou que c'est ça qui t'anime, qui fait que tu continues malgré les fameuses difficultés que tu listes?
Ah, bien sûr. Ah
Ouais.
bah évidemment, moi tous les jours quand je m'installe à mon ordi, bah je kiffe trop et tout, j'aime trop ce que je fais. Évidemment, il y a des trucs moins marrants, plus administratifs ou plus contractuels, mais ça me dérange pas.
Ok.
Surtout que 90% du temps tout va bien. Et évidemment, si vous faites un travail passion comme moi, bah c'est vous savez à quel point c'est agréable. Mais je veux quand même dire que quand ça devient un travail, c'est quand même autre chose. Parce que quand c'était pas un travail, je le faisais quand je voulais, et si je le faisais pas, c'était pas grave, tu vois. Là, bah, t'as quand même le truc de bah, faut travailler dessus régulièrement pour en faire quelque chose de concret et de tangible, tu vois. Et de rémunérateur. Surtout, malheureusement, en enlevant ça, j'en parle beaucoup, mais si tu gagnes pas d'argent avec ça, bah, je retourne. Si je gagne plus d'argent avec ça, je retourne en CDI, et puis voilà.
Au début, justement, avant que tu fasses ce passage 4/5, 3/5, puis full freelance, au début, tu voulais pas te lancer hein, comme freelance, c'est ce que tu m'avais dit la première fois qu'on avait discuté, parce qu'il y avait des aspects qui te faisaient peur.
Ouais, bah c'est peut-être ça justement qui fait que je suis un peu pessimiste, tu vois, sur le côté travail-passion que j'explique là, tu vois. Parce que moi, le CDI, c'est une bonne chose parce que quand j'arrive à 9h, je travaille et puis à 18h, si c'est pas fini, bah je m'en vais et je dis bah on reprend le travail le lendemain à 9h ou lundi prochain, quoi. Alors qu'en freelance, bah t'es un peu livré à toi-même déjà socialement, c'est-à-dire que t'as pas forcément d'équipe, faut que tu prospectes toi-même. Faut que tu factures toi-même, faut que tu gères tes sous toi-même, faut que tu te fasses tous tes mutuelles, tes trucs, tes machins toi-même, etc., etc. Et ayant été en CDI pendant 15 ans, j'avais jamais eu envie d'être en freelance pour toutes ces raisons parce que enfin, moi, je voulais avoir la tranquillité d'esprit, tu vois, pour pouvoir justement faire ce qui me faisait kiffer en dehors du travail. Alors, je kiffais mon travail en CDI, bien sûr, mais ça reste toujours des projets que tu choisis pas forcément non plus quand tu es en CDI, ça. Il y a une moyenne, quoi. T'es là, tu travailles, et puis voilà. Et donc, le freelance, ça me faisait peur, et surtout parce que j'avais pas envie d'avoir une charge mentale constamment. Alors que quand t'es en CDI, il y a une coupure quand tu sors du travail. En freelance, moi, je me voyais bien être là et dire ah, dans mon lit, ah merde, est-ce que j'ai facturé Charlie? Ah merde, est-ce que au mois de février, j'aurai assez de clients? Est-ce qu'il faut pas prospecter? Ah, qu'est-ce qui va m'arriver si je trouve plus de clients pendant 3 mois, etc., etc. Et ça, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je kiffe pas du tout, tu vois.
C'était ma question justement, tu avais ces craintes-là avant de te lancer et la question que j'avais en tête c'est aujourd'hui t'en es où par rapport à ces craintes-là? T'as l'air de dire ça a pas trop bougé quoi. Remarque, tu t'y confrontes parce que t'as pas le choix aujourd'hui.
Bah, c'est ça. Je m'y confronte parce que j'ai pas le choix, mais honnêtement, c'est toujours pas quelque chose d'agréable après 2 ans, tu vois. Genre, ça me fait pas kiffer d'avoir la charge sur moi quand il arrive quelque chose, d'être tout seul. De pas avoir de collègues, tout ça. Ça me fait toujours pas kiffer, tu vois. Et donc, j'avais un peu, on va dire, anticipé ce qui me plairait pas, et ça me plaît effectivement pas. Mais néanmoins, j'ai arrêté mon CDI parce que la bascule entre ce qui me plairait pas dans le freelance et ce que j'avais envie de faire sur le projet Bastivi a carrément pris le dessus, tu vois. Donc, ça reste aujourd'hui quelque chose de très cool, un sujet dont je peux parler avec mon audience et mon entourage. Mais les points négatifs du freelance ou de l'entrepreneuriat en général, ils sont toujours présents, quoi. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis anxieux. Des fois, le soir, je pense au travail et tout. Et ça, ça restera pas cool et ça reste pas cool pour tout le monde, je pense.
Non, non, je confirme. Je
Bah ouais.
confirme. Mais justement, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de creuser cette idée de passion, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on continue à être freelance ou entrepreneur, ou des fois, comme tu dis, faire face à la solitude, ou des choses comme ça, c'est parce qu'on se dit, wow, la vache, là, c'est la grosse galère, je suis en PLS parce que ça me stresse. Mais j'y crois, ça, je vais y arriver, c'est
Ouais,
long, c'est
complètement.
difficile, mais j'y vais quand même.
J'étais un peu pessimiste sur le côté passion, mais évidemment, c'est ce qui m'anime aussi. C'est juste que j'ai pas envie d'être trop, c'est genre trop, ouais, ma passion, bah j'ai fait ça et ça a réussi et tout. J'ai pas envie que les gens qui écoutent, ils se disent que c'est mon conseil, tu vois. Parce que je suis aussi très terre à terre de dire qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'alignement, etc., etc. Et donc, j'ai pas envie de passer un message trop idyllique, tu vois, sur ça. C'est pas parce que t'as une passion que ça va réussir. Par contre, si t'as une passion et que tu le fais, t'auras peut-être l'opportunité un jour de transformer. Et si tu t'as bien travaillé, t'as fait truc quali et ça se transformera un jour.
Ouais.
Mais je veux pas que mon parcours soit un modèle que tout le monde puisse reproduire, parce que je pense aussi qu'il y a eu pas mal d'éléments qui ont fait que les étoiles soient alignées et tout, tu vois.
Tu penses que t'as eu de la chance?
Bah, la chance, c'est toujours difficile à définir, parce que oui, j'ai eu de la chance, mais le travail derrière était de qualité, parce que sinon, quand ta chance, elle arrive, bah, ce qui est mis en avant par cette chance, si c'est pas de qualité, bah, ça marche pas. Donc, il y a les deux. Donc, il y a avoir un travail de qualité à proposer pendant des années, des années, des années, t'es pas vu, et un jour, on te regarde, et si c'est de qualité, eh ben, ça peut percer. Et donc, la chance, c'est attendre le jour où on te regarde, en gros, tu vois.
Ouais.
Donc, oui, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance, mais ça veut dire aussi que ce que je faisais, il y avait un petit truc intéressant, tu vois. Voilà, mais je suis sûr qu'il y a genre 50 personnes qui font des trucs intéressants aujourd'hui qui n'ont pas encore été vues. Et bah, peut-être que leur chance, elle va arriver pour qu'ils soient vus aussi, mais voilà, faut quand même avoir un truc de base à montrer. Si tu fais rien et t'attends la chance, il se passera rien, quoi.
Faut la provoquer, quoi. Faut la titiller un petit peu.
Ouais, faut la titiller aussi, ouais.
Tu donnerais quoi comme conseil justement à quelqu'un qui est plutôt une tendance timide, mais qui sait faire, qui a un savoir-faire, mais qui voudrait ou qui comprend la nécessité d'être visible, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, tu donnerais quoi comme conseil?
Eh ben, je pense pas que le terme timide soit approprié, parce que tous les vidéastes, créateurs de contenu, streamers que je connais sont hyper timides. Tous. Parce qu'en fait, bah, s'ils ont percé sur Internet, c'est peut-être pour une bonne raison, tu vois. Peut-être parce qu'ils étaient timides, tu vois ce que je veux dire. Et dans le sens où bah, ils ont commencé à faire du contenu derrière un micro, derrière une caméra, parce que les autres, ils sortaient, ils rencontraient des gens, ils parlaient à des gens. Enfin, tu vois, je caricature, c'est pas du tout ça, mais... Et du coup, la plupart de vos créateurs de contenu, vous dites « Oh, le charisme de machin, oh, lui, tu le croises. » Mais pas du tout. C'est des gens super effacés, super timides, qui n'osent pas arriver dans une conversation. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, si vous êtes timide, faites du contenu sur Internet. Au contraire, c'est ça le conseil, quoi.
Et puis, vous êtes à votre place, quoi.
Bah oui, après, tout le monde est à sa place. C'est ça qui est bien avec Internet.
Oui, oui.
Tout le monde est à sa place sur Internet, c'est ça qui est cool. Et vous pouvez rencontrer votre audience et être hyper connu et à la fois avoir une autre audience qui ne vous connaît pas du tout, parce qu'il y a tellement d'endroits et de bulles différentes qui font que tu peux être la star de ton écosystème et être inconnu au bataillon par le voisin d'à côté, tu vois. Donc ça, c'est intéressant de se lancer sur Internet pour ça. Et je voulais le dire aussi tout à l'heure, on disait ouais, le côté social de ne pas être en CDI ou en freelance et tout. Moi, j'ai un profil un peu atypique là-dessus. C'est que effectivement socialement, bah, je travaille tout seul, voilà, dans mon bureau, voilà, je suis tout seul. Je travaille avec des gens à distance où on parle que par Discord, par message et par vocal. Mais en paradoxe, je parle à des gens non-stop en live, en full parasocial, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. À la fois, ça vide un peu ma jauge sociale, parce que je discute avec des gens par visio ou par chat, en live et sur YouTube, et je réponds à des commentaires et tout. Et après, bah, dans la vraie vie, bah, du coup, je suis tout seul. Et est-ce que j'ai encore de l'énergie sociale à redonner à des autres gens en présence, tu vois? Et à la fois, je me dis, ah, j'aimerais trop avoir des gens qui travaillent dans un open space à côté. En même temps, j'aurais pas envie d'aller les voir, parce que je serais rincé d'avoir fait mon live devant 400 personnes qui me posent plein de questions. Enfin, c'est plein de paradoxes, la création de contenu là-dessus. Contrairement à un freelance plus classique qui va juste être en mode... Je fais mes posters sur Photoshop, Illustrator. J'adore du coup avoir plein d'autres artistes autour de moi et on discute en même temps. Tu vois, c'est pas pareil que de s'enregistrer et faire des vidéos. Mais du coup, ouais, des conseils à donner aux gens qui sont timides, c'est allez-y, vous faites à votre sauce. Internet, c'est pas forcément une tête, un micro et un écran. Ça peut être du motion design avec une voix off. Ça peut être votre tête avec des sous-titres, ça peut être plein de choses. Aujourd'hui, le contenu, il apparaît sur vraiment beaucoup de formes, et les contenus qui marchent le mieux, c'est même les contenus qui sont agnostiques de langage, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi bien vus par un Anglais qu'un Péruvien, qu'un Brésilien, qu'un Allemand, qu'un Français, parce qu'en fait, des fois, tu peux faire passer des informations par juste des situations, des textes, du motion ou une capture d'écran... avec des pictos, enfin tu vois, il y a trop de trucs intéressants maintenant sur Internet à ce niveau-là, quoi.
Ok, intéressant, ouais. Super intéressant.
Parce qu'on pense souvent, ouais, bah je veux faire du Internet, donc c'est salut à tous, voici ma tête, ça zoome sur ma tête et tout. Bah non, pas du tout, il y a le podcast aussi, il y a le podcast, tu vois, enfin.
Ouais.
Donc il y a plein de formes Il y a plein de fonds, mais surtout il y a plein de formes, et il faut juste prendre la forme qui vous met à l'aise, quoi. Voilà.
Bien sûr.
Il y a plein de gens qui percent juste sans montrer leur tête, d'autres qui montent leur tête, d'autres qui montent leur écran avec des sous-titres. Enfin, il y a plein de trucs, quoi.
Parfait. Ouais. T'as parlé de tes live switch et que tu faisais du télétra-live.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-nous tout.
Alors, le télétra-live, c'est venu, comme je te l'ai dit au début, un peu naturellement. Des gens me contactaient pour bosser avec moi. J'avais pas de temps. Parce que j'étais en CDI. J'ai fini par avoir un jour de libre. Un jour de libre, yes, pour développer mes contenus sur les réseaux sociaux. Mais on me demande quand même de travailler avec moi. Et donc j'ai fait, bon, bah, c'est venu un peu tout seul. Est-ce que tu accepterais que je stream le processus de travail? Et donc j'ai appelé ça Télétra Live parce que je travaille pour un vrai client en live. De plus, c'était assez demandé à ce moment-là. Les gens disaient, sur un vrai projet, tu fais comment? Tu peux nous montrer un vrai fichier source et tout? Bah, je disais, bah non, c'est les trucs des clients, faut pas vous montrer et tout, machin. Et donc, ça répondait à pas mal de besoins de ce moment-là. Et au tout début, les clients, ils étaient un peu, on va dire, réfractaires. C'est-à-dire qu'ils disaient, oh là là, tu as montré mon projet en live et tout. Dès le début, bah, on va nous voler l'idée. Et puis, en plus, tu es en live, donc tu vas travailler moins vite et tout. Donc, au début, je devais argumenter sur les bienfaits du télétra live et même faire des petites réductions, réductions 10%, 20% de travail en live pour vendre mes devis. Dès que j'en ai fait 2-3, ça a été tout de suite un bon succès et j'ai plus jamais eu besoin d'argumenter auprès des clients avec qui je faisais ça parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de toutes les plus-values qui étaient au début. J'ai peur qu'on me vole, j'ai peur que ça fasse leaker les nouveautés et tout, machin, machin. Pas du tout, c'est tout l'effet inverse en fait. Ouais. Et donc, dans les plus-values, pour les lister rapidement, bah déjà, je travaille en live. Du coup, je fais de la pub pour ton produit, tu vois. Très bêtement, je travaille sur une startup et j'ai dit, c'est quoi la startup? Bah, du coup, je l'explique à chaque fois, tu vois.
Ouais.
Donc, ça fait une petite pub. Deuxièmement, j'ai l'avis de 300, 400, 500 personnes qui sont là et qui regardent et ils me disent, bah, Basti, t'as oublié un S. Basti, on comprend pas trop. Spicto, t'es sûr que c'est le bon? Moi, je dis, alors les gars, vous préférez la A ou la B et tout. Donc, déjà, le client, il a un genre de user test.
Bah, ouais,
alors,
live.
À grande échelle. C'est pas du micro, c'est du macro, mais. Des trucs qui valent une fortune quand tu veux les faire sur des outils, quoi. Dernier argument, c'est la seule façon de bosser avec moi. Et souvent, les gens qui viennent vers moi, sans aucun boulard aucun, mais c'est parce qu'ils m'ont vu et qu'ils disent « on veut toi ». Et je dis « bah non, je peux vous envoyer des autres freelances, non, on veut travailler avec toi ». Donc, ça a aussi répondu à cette problématique-là de « on veut travailler juste avec toi parce qu'on a vu ta vidéo sur machin ». Ça m'a toujours étonné. Hein. « Oh, j'ai vu ta vidéo, tu critiques la SNCF, on aimerait vraiment bosser avec toi ». D'accord, pourquoi pas, comme quoi tu vois. Donc voilà, donc ça a répondu à ces problématiques et désormais quand on me contacte, soit 90% du temps les gens ils disent bonjour, je voudrais passer en télétra live, j'ai même pas besoin de d'expliquer quoi que ce soit, les gens qui arrivent dans ma boîte mail ils me disent ça direct, contrairement à l'époque, ou alors je dois expliquer et s'ils disent ah je sais pas trop si on peut partager ces informations là, je dis bah tant pis et puis je le fais même pas quoi.
Avant, tu faisais des réductions, tu le fais toujours?
Non.
Non, plus maintenant.
Bah, en fait, ça dépend. Je peux te donner les coulisses si tu veux. Il y a plusieurs trucs. Avant, je faisais des réductions parce que c'était dans mes arguments. Vas-y, accepte que je travaille en live, tu vas voir. Donc vraiment, il y avait une ligne, moins 20%, travail en live. Et en plus, comme il signait le devis, il était écrit travail en live. Du coup, il ne pouvait pas me dire après, contractuellement, tu as travaillé en live et tout. Ça faisait aussi un peu office de CGU. Comme ça, c'était bien écrit en gros, mais bon. Je peux aussi le mettre dans mes CGU, mais bon, CGV, pardon, pas CGU, mais CGV, vente.
Oui.
Mais bon, voilà, c'était aussi au début, je connaissais pas trop le freelancing, donc je faisais un peu comme ça, tu vois. En vrai, il m'arrive extrêmement souvent sur tous mes devis de faire des réductions, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas envie de baisser le TJM, parce qu'en fait, ou le taux horaire ou le TJM, parce que j'ai pas envie de transmettre aux gens, et ça je le fais aussi pour toute ma communauté de designers et qui font le même métier que moi, j'ai pas envie de dire qu'un certain travail vaut si peu d'argent. Les gens ils se rendent pas compte qu'un UX UI designer c'est 500 euros par jour, 600 et même 800 voire 900, presque 1000 pour les seniors. Donc moi je fais ce métier depuis 10-15 ans, je suis plutôt dans les seniors. Si j'écris TJM 1000, voilà, les gens ils vont peut-être pas apprécier. Pourquoi je fais des réductions? Parce que moi, quand je suis en live, je veux aussi prioriser les projets qui me font plaisir de faire et qui me font plaisir de montrer. Encore une fois, j'ai quitté mon CDI, c'est pas pour faire un dashboard d'un back-office pendant 3 mois en live sur Twitch, tu vois. Et donc, quand il y a un petit projet qui me plaît, une petite start-up, une petite appli, et que je me dis, ok, ça, je vais pouvoir faire des lives hyper cool dessus, m'arrêter pendant une demi-heure pour expliquer le dark mode à mon audience et tout, et que le client va pas râler, je baisse mon TJM par la petite réduction. C'est-à-dire que, tu vois, genre, je fais mes chiffrages, ça vaut 1000, 2000, machin, j'arrive en bas à, je sais pas, 5550, je fais une petite réduction pour que ça fasse 4900, tu vois, parce que je me dis, il faut qu'ils acceptent, il faut que ça rentre dans leur budget, mais je veux pas baisser mes prix sur chaque ligne, parce que ça voudrait dire mon travail ne vaut pas cette valeur. Par contre, je préfère mettre une ligne en bas, bah, réduction pour faire le projet en live avec vous sous ce format-là, tu vois. Donc je la garde quand même dans ce sens-là. Et il faut savoir qu'en télétravail live, je gagne pas énormément d'argent sur le travail. C'est vraiment un prétexte pour faire du contenu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc, en ce sens, je garde un peu la réduction. Et ça, ça me dérange pas de le dire parce que j'ai pas envie de mettre sur ma ligne « je te fais ton appli pour 1000 balles », tu vois. Parce que ça serait craché sur la... sur la profession, parce que les autres, ouais, vont faire des applis pour 20 000, 30 000 euros, tu vois. Mais néanmoins, j'essaye aussi de dire aux clients, je sais que t'as pas beaucoup d'argent, j'ai bien compris qu'on a fait notre call au début, mais j'ai envie de faire ton projet parce que il est super visuel et tout, et je sais que je vais pouvoir m'éclater dessus en live. Du coup, je fais cette petite réduction quand même, tu vois. Et ça, je prends sur moi parce que j'ai envie d'avoir le projet, tu vois.
Sur quel type de projet tu penses être le plus efficace, le plus passionné, celui où tu dois faire une réduction parce que tu le kiffes et le projet, tu kiffes le concept et que tu vas adorer le faire en live, ou celui qui d'ailleurs tu ne vas pas même prendre parce que tu peux pas le faire en live et qui serait potentiellement plein tarif?
Ah bah moi je prends le truc le premier, hein. Genre ça m'est arrivé des dizaines de fois. Ouais, on a 30 000, 40 000 euros de budget pour faire cette appli machin, par contre faut pas la faire en live, je pense que t'es fort, tu pourrais la torcher en 3 semaines, j'ai jamais fait. Parce qu'à chaque fois je me dis, rappelle-toi pourquoi t'as quitté ton CDI, pour créer du contenu. Si tu prends ce projet-là, bah pendant 3 mois, tu vas arrêter de faire du contenu. Pour faire ce projet-là, tu auras 40 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec, quoi ? Ça ne m'intéresse pas.
Mais du coup, le client qui a un plus petit budget et qui bénéficie justement de ce que tu as évoqué par rapport au Télétra Live, qui sont des trucs, comme tu l'as très justement dit, très chers, qu'il ne paye pas, qui en plus lui sont remisés. Lui, ce client-là, il a la quintessence de la valeur Bastien Maréco. Il a la totalité, ouais, de l'expérience, mais il n'en paye qu'une partie.
Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est qu'en live, si j'ai envie de m'arrêter et qu'il y a une news qui tombe, je m'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est aussi dans notre contrat. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, t'as vu, machin, il a sorti une vidéo, j'arrête de bosser, je regarde la vidéo. Je caricature, mais c'est ça, quoi.
Ouais.
Et préfère que les clients ne soient pas au plein tarif Bastien Maréco,
ouais,
puisque du coup, il y a des libertés aussi, tu vois.
Ouais.
Et donc, il y a aussi pour moi, être droit dans mes bottes, j'ai pas envie de mettre mon tarif au max et puis après être en live et faire pouette-pouette, j'avais envie de faire pouette-pouette aujourd'hui, je me sentirais pas droit dans mes bottes et du coup je préfère mettre un prix moins élevé que d'habitude pour justement que ce soit genre vraiment, c'est vraiment le prix honnête que je donne, vraiment je pense que ça vaut ça, tu vois.
Et tu crois que tes clients, ils te diraient, si tu mettais pas la remise, ils te diraient bah non, je ne paye pas ce prix là parce que...
En vrai, il y a de fortes chances qu'ils payent. Mais moi, je serais un peu en mode, ah ouais, mais ça fait quand même 2 semaines que j'avance tout doucement parce que mes lives, c'est que 3 fois par semaine. Et moi, je me sentirais pas heureux au quotidien, tu vois, ça me mettrait une tension, donc je préfère pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?
Bah, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, ça rentre un peu en conflit avec, tu sais, ce qu'on évoquait plus tôt, les stress de, que tu ne sembles pas avoir, mais en tout cas que certains freelances ont, de dire bah, j'ai pas de clients, ou j'en ai pas assez, ou j'ai pas de rentrée d'argent. Bah, du coup, si tu enlèves des remises, même si je vois tout à fait la démarche et qu'elle est tout à ton honneur, je me dis que ça se trouve, tes clients, eux, ils viennent te voir de toute façon. Donc, tu es de facto en position de force.
Les remises sont pas énormes, hein. C'est pas du 50%, c'est vraiment...
Bah alors, sinon, moi, je raccroche.
Non, mais c'est à moitié psychologique et aussi pour arrondir un prix qui me paraît légitime, tu vois. Mais tout en montrant le TGM d'un senior, tu vois.
J'entends, mais le truc, c'est qu'il y a, une... On pourrait faire un épisode sur que ce sujet-là. C'est-à-dire que ta perception, c'est je mets le vrai TGM et je fais une remise derrière. Et dans ta tête, c'est bon, bah du coup... Ça paraît plus légitime parce que c'est un peu moins cher, ou ça fait un peu passer la sauce. Il y a beaucoup de freelances qui pensent comme ça, qui disent,
ouais,
faire une remise, C'est une façon de faire passer le truc, de s'adapter aux clients, de travailler avec eux. Il y a d'autres façons. Et je pense que toi, juste ton cas précis, hein, je ne parle pas d'autres freelance, mais ton cas précis, c'est que les gens viennent déjà vers toi, tu es déjà en position de force, ils savent la valeur de ce que tu apportes. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de la totalité de ce que tu apportes. Je pense que tu n'as pas forcément non plus toi-même conscience de la totalité de ce que tu peux apporter sur la table. Parce que tu es déjà, comme tu l'as très justement dit, UX, UI senior, de facto, de base. Donc déjà, tu coûtes cher, quoi qu'il arrive. Mais en plus, tu leur fais bénéficier d'une visibilité de base, parce que ça s'appelle l'influence, ça, hein. Il y a des gens
Oui,
qui
bien sûr, bien sûr.
facturent juste ça, tu vois.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc limite, tu pourras leur dire, hey, les gars, vous allez être visibles sur ma chaîne. En plus.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, il y a un truc, comment dirais-je, c'est que je sais que si je prenais un projet avec mon vrai TJM et que je bossais vraiment de 9h à 18h, je produirais pas exactement ça. Parce que là, je m'arrête pour expliquer ce que je fais et tout. Donc, en un sens, je vais moins vite. Mais en un sens, je trouve plus d'idées aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et je te dis ça, je suis très débutant. Moi, ça fait à peine 2 ans, même pas, que je fais mes propres prix. Et c'est sûrement plein d'erreurs. Donc, c'est intéressant que tu me dises ça. Et moi, j'ai aucun ego, aucun problème à entendre ça. Et je suis même très conscient que sûrement je fais plein de conneries, des trucs pas du tout assez chers ou des trucs pas du tout baqués. Mais imagine, genre presque 20 ans de CDI et à peine 2 ans de freelance sans aucune notion.
Bien sûr.
Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi. Je fais peut-être ça parce que je privilégie d'avoir tout le temps un client dans le pipe plutôt que de faire assez d'argent pour ne pas travailler pendant un mois, ce que pourrait faire un freelance, tu vois. J'ai fait un gros projet pendant un mois, je travaille plus pendant un mois. Mais du coup, qu'est-ce que je fais en live, tu vois? Et du coup, j'ai quand même envie d'avoir toujours un petit truc à faire en live. Du coup, je suis peut-être aussi dans ce petit truc de vas-y, on essaye de remplir. Mais c'est peut-être une erreur, hein. Mais c'est aussi différent de... Tu vois, imagine, je termine le projet, là, je travaille pour MiCode. Je termine le projet de MiCode. Mercredi, je lance mon live, je fais genre... Ah! Il n'y a pas d'actu? Ah! Tu vois, genre... J'ai pas de travail? Ah, tu vois, genre, bon, j'ai caricature, mais bon.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu as deux pipelines à remplir. Un pipeline de rentrée d'argent et tu as un pipeline de contenu.
Ouais, et sachant que rentrée d'argent, en vrai, je te le redis, mais je te l'ai dit tout à l'heure, l'argent qui arrive des clients, c'est pas quelque chose qui fait basculer ma compta. Par contre, quand j'arrive à monétiser mes contenus avec
C'est
sponsors,
ça qui.
publicité et tout, ça, c'est un gros poste. Et du coup, je préfère... trouver un gros sponsor et faire des projets qui me plaisent, quitte à accepter une petite appli avec des illustrations rigolotes que quand les gens vont regarder, ils vont dire ah, trop bien ce qu'il y a à l'écran, plutôt que le dashboard à 40 000 euros, un peu austère, tu vois. Mais c'est un peu le dilemme et je suis tout seul pour jongler avec tout ça et je découvre chaque jour, tu vois. Je découvre des choses chaque jour, mais oui, c'est ça l'idée.
Mais ça faisait partie d'une question que j'avais parce que on avait déjà parlé off hein, de ce
Ouais.
concept de. Je crois que tu avais dit ne pas vouloir prendre de gros budgets pour conserver la liberté que t'offrent les lives. Et franchement, alors je veux préciser quelque chose, c'est que je parierais pas dessus, mais à mon avis, il y a beaucoup de freelance qui facturent un TJM et ça leur arrive de regarder des YouTube pendant la journée de travail. Tu vois ce que je veux
Ah
dire?
bah oui, bah
Bon,
moi
toi,
aussi.
tout le monde le voit. Tout le monde le voit, donc c'est pas pareil. Mais en tout
Oui.
cas, je pense que. Ça ne les empêche pas, tu vois, eux, de facturer le plein tarif. Ça, c'est une petite aparté. La question que je me posais, c'était est-ce que la liberté, justement, que tu as dans les lives, est-ce qu'elle s'oppose, la liberté en tant que concept, aux clients à gros budget?
Peut-être, ouais.
Parce que là, tu vois, tu me parles de ce dashboard en disant, mais c'est impossible d'avoir ce projet limite au long cours. C'est comme si, quelque part, tu vois, tu pourrais pas faire un live qui dure sur 2 mois, où tu travailles sur un projet. Et les clients voient ça en live, mais aussi ton audience voit ça en live et assiste à la naissance d'un gros truc. Peut-être que c'est pas kiffant, mais
Ouais, non,
moi je pense que.
la volonté de faire des petits projets pour changer souvent aussi, pour être flexible, ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, je préfère les applis mobiles aussi. Moi, je suis spécialisé dans les applis mobiles, donc je préfère prioriser ce genre de projet aussi, quoi.
Oui, puis une appli mobile de A à Z, c'est long.
C'est long et en plus, le format que j'emploie, en n'étant pas dispo tout le temps parce que je suis en live ou en vidéo YouTube, ce correspond pas à tous les clients qui veulent être là avec son designer au daily meeting tous les jours. Donc c'est aussi pour ça que ça me donne accès à d'autres types de projets que ceux que toi tu peux-être exprimes là, tu
Et je trouve ça, en vrai, je trouve ça génial parce que tu as trouvé une façon mécanique de mettre un frein là où beaucoup d'autres designers n'ont pas. Je m'explique. Il y a beaucoup d'autres designers qui, justement, vont avoir des clients qui disent, écoute, gars, je te paye 50 000. Donc, quand je t'appelle, tu viens en meeting, même si le designer, il se dit, ça sert à rien. Et il y a aussi d'autres designers qui vont s'entendre dire, écoute, le projet, je le veux en 3 mois, par la porte ou par la fenêtre, tu livres. Toi, de base, c'est presque tes fameux CGV tacites de dire, travailler avec moi, ça implique de prendre son temps, de respecter mon rythme et d'accepter que bah, je ne vais pas être à tous les meetings parce que bah, c'est peut-être pas utile, parce que je livre quand
J'en
même.
fais même aucun, si tu veux savoir.
Voilà.
Je fais
Et ça
aucun
n'empêche
meeting.
pas de livrer.
Ça s'empêche pas de livrer, et c'est ça qui est
Tu
intéressant,
vois?
c'est que c'est peut-être en ce sens que j'adoucis, on va dire, c'est pas le cas, mais j'adoucis ma facture. Je sais pas, c'est vraiment pour moi me sentir honnête, tu vois, par rapport à ce que je fournis. Je sais que des fois, à 11h, j'ai toujours pas commencé, et qu'à 13h, je suis parti manger. Le client, il pourrait se dire, bah, il a bossé que 2 heures, franchement, il abuse. Mais le fait que j'ai bien briefé, bien expliqué ma façon de travailler, et que moi, je donne un livrable. D'ailleurs, j'ai dit TJM, je vais préciser pour ceux qui nous écoutent et pour toi, c'est hyper important. Dans ma tête, je calcule avec mon TJM. Je dis, ok, la page, elle va me prendre autant de temps, etc. Mais je ne fais jamais apparaître sur le devis parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. De clients qui m'ont dit, mais t'as pas vraiment bossé ce temps-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, baisse le prix, tu vois. Donc je ne mets plus jamais le TJM dessus. Et ce qui fait que l'appli, je la sors pour 5 000 et je me paye le luxe. J'aurais pu peut-être me faire payer 10 000 si je bossais en off depuis un bureau avec tous les daily meetings et tout. Je me paye le luxe de pouvoir le faire en live, de pouvoir m'arrêter, reprendre quand je veux, de pouvoir ne pas faire les meetings. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc,
C'est le prix de ta liberté presque.
c'est exactement
En tout
ça.
cas, d'une forme de liberté.
Voilà. Après, ça, mes prix, ils évoluent aussi en fonction de la demande, tu vois. Quand j'ai
Bien
aucune
sûr.
demande de projet, bah, je vais dire, bon, ok, lui, je vais lui faire. Ça vaudrait 5 000, mais je vais mettre 4 500, voir s'il accepte, comme ça c'est mieux. Ou alors, quand j'en ai trois projets en même temps, bah, je mets mes prix haut et celui qui accepte, c'est bien, parce que les trois me plaisent. Enfin, il y a aussi ça, mais c'est comme pour tout le monde au final, tu vois.
On fera un autre épisode. J'ai tellement de trucs à dire.
Je viens de voir dans tes yeux que c'était peut-être pas la bonne façon de faire, mais bon.
Bastien me voit, mais je ne vois pas Bastien. Donc je ne vois pas ses réactions, mais moi j'ai un visage très expressif. Et du coup, ça se voit sur ma tronche quand en mode oh là non. Mais oui.
Toi, t'es indépendant depuis combien de temps?
Ça fait 3 ans maintenant.
Ah, pas tant que ça finalement.
Non?
Pas beaucoup plus que moi.
Non, mais par contre, moi je suis commercial de base.
Ah ouais.
Donc le concept de valeur et des concepts comme me sentir honnête par rapport à des prix.
Ouais.
Je suis éloigné de ça. Je suis passé par ça au début, mais je suis
Ah.
très éloigné de ça maintenant.
Oui, je comprends.
Je comprends tout à fait d'où ça vient et je trouve ça très.
Empathique, ouais.
Ouais, c'est empathique, c'est très, très engagé envers le client, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que ça peut être dangereux.
Ouais, je comprends. Mais il y a aussi une différence. Si je vendais des produits ou des employés à moi, c'est pas pareil de se vendre tout seul.
Ouais.
Et ouais, et ça, c'est
Ouais,
difficile parce
c'est.
que à l'époque où j'avais pas d'agent et qu'une marque elle me contactait pour faire une sponsor, elle me disait ouais, c'est 300 € la sponsor. Je disais ah bon, c'est pas 1 000 et tout. Maintenant, quand je travaille avec une agence, un agent qui me représente, c'est pas du tout la même chose, hein. Ah, c'est tellement différent, même pour elle, mais pour moi, et je suis beaucoup mieux vendu aux marques, etc., quoi.
Il y a beaucoup de créateurs, des créatrices de contenu qui font appel à des agents. Je discute avec une illustratrice, pareil, qui gère les projets d'ampleur à travers une agente. Et elle dit, moi, je négocie mes projets que des gens qui viennent me voir directement, mais les plus gros projets, c'est elle qui les gère. Parce que dès que c'est une enveloppe un peu plus élevée, bah, je suis pas armé pour discuter de ça, quoi.
Je suis d'accord. Et il y a aussi le truc que quand tu fais une enveloppe un peu élevée, tu t'attends à être engagé pour hyper longtemps avec un peu, tu sais, un boulet au pied dans ta tête quand tu le fais, tu vois. Putain, j'ai signé 50 000 euros avec Deezer. Ça veut dire que pendant 6 mois, je vais devoir faire cette réunion tous les mardis de 9h à 18h. Ah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Enfin, tu vois, il y a un truc un peu ça aussi dans l'engagement du truc. Alors que moi, les projets, je le redis, je les fais pour
Ouais.
l'entertainment, entre guillemets, pour avoir du contenu. Et je veux pas que ce soit ma source de revenus. Donc il y a aussi ce truc un peu différent d'un freelance classique. C'est-à-dire que moi, je veux des projets à faire. Limite, un Bastiwi parallèle, il prendrait des projets associatifs, tu
Oui.
vois, ou des projets des abonnés, il les ferait gratuitement, ce qui serait un peu bête, parce que du coup, ce serait encore une mauvaise chose. Mais tu vois, ça aurait pu être ça. Sauf que moi, j'arrive à un peu le monétiser, donc c'est cool, tu vois.
Ça me fait revenir un peu à l'intro que j'avais faite. Je me pose la question de savoir comment je dois te présenter. Et je pense que, avant toute chose, tu es créateur de contenu.
Ah oui, là on parle beaucoup de mes projets,
Ouais.
mais c'est, allez, je caricature, c'est 8 heures par semaine. Parce que c'est 3 demi-journées par semaine, sauf qu'il y a l'intro, bonjour à tous, quoi, c'est quoi les news? Ok, on blablate, je démarre le projet, il est 10 heures du mat et j'arrête à 13 heures, et pareil le vendredi, enfin tu vois. Donc c'est des petites sections. Après, je travaille un petit peu hors live avec le client et tout, des petits messages. Mais c'est très asynchrone, quoi, tu vois. Ça, c'est très important aussi, c'est que le client, il doit être dans la culture de l'asynchrone, tu vois. S'il veut que je sois dans des présentiels, je ne donne pas suite, quoi. Genre là, Micode, je travaille avec lui depuis pas mal de temps. Et on se fait des petits enregistrements vidéo, on se donne les retours. Et moi, je lui représente ma maquette dans un enregistrement vidéo. Et puis, comme ça, on le regarde quand on veut. Et ça avance super vite, quoi. Parce qu'on n'est pas dispo en même temps. Je me reconnecte le lendemain, il m'a enregistré une vidéo de 5 minutes, je la regarde en x2 avec les retours. Le lendemain, je lui dis voilà, j'ai fait les retours, je lui refilme mon écran. Et là, c'est fini, quoi. Enfin, c'est. Bref, mais ça reste une très très petite partie
La source de revenus, ouais.
de mon quotidien. Ouais, on en a beaucoup parlé, mais voilà. Et je donne aussi parfois des formations d'entreprise, Figma et tout, ce qui me rapporte pas mal d'argent parce que là, par contre, je sais le chiffrer, on va dire, parce que j'ai donné des formations. Avec mon entreprise, en étant employé, donc je sais combien ça coûte. Donc là, bah, c'est moi qui facture. Il y a aussi ce petit symptôme de on veut que ce soit toi qui nous forme parce qu'on t'a vu à la télé. Et donc ça, j'aimerais en faire plus, mais toute la partie prospection, je ne sais pas la faire, slash, je ne veux pas la faire, slash, j'ai pas le temps de le faire. Mais l'année dernière, j'ai dû en faire deux ou trois. Donc c'est des volumes de 6 journées étalées sur un mois où je vais dans les bureaux de l'entreprise, ça me rapporte un bon cachet quand même. Faut pas se mentir, la formation ça coûte
Ouais.
très cher. De donner 10 ans de savoir-faire condensé à 10 personnes dans une pièce, ça vaut le prix que ça vaut. Donc, mes amis, si vous faites de la formation, je vous en supplie, ne mettez pas votre TJM, ne mettez pas non plus votre TJM x2 parce que vous avez du temps de préparation avant. Je vous en supplie, ça vaut beaucoup plus
Ouais.
cher que ça, du savoir. Voilà, et donc ça, j'aimerais bien en faire un peu plus. Pour l'instant, en fait, j'ai pas le temps. En fait, je fais trop de trucs. YouTube, Twitch, projet, formation. Donc, je ne prospecte pas. Mais si un jour, je vois que financièrement, c'est galère ou que j'ai du temps libre, bah, je me ferai peut-être une petite page pour promouvoir ma formation, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai un mail tous les 3 mois d'une boîte, quoi. Donc, bon, c'est OK. Il y en a 50% qui donnent pas suite. Mais voilà, j'en fais de temps en temps. J'en fais deux par an. Ça me rapporte des bons petits sous. Mais pareil, ça, c'est. Un pourcentage minuscule de mon quotidien par rapport à la création de contenu. Et la création de contenu n'est pas forcément le truc qui me rapporte le plus, mais c'est encore une fois ce pourquoi j'ai arrêté de travailler en CDI, et donc je focus sur ça, et si un jour ça ne marche pas, je reprendrai un CDI. Bien que cette année, j'ai un plutôt bon bilan sur les sponsors. Du coup, ça commence à prendre un peu plus de place dans le camembert, tu vois, des revenus. Et donc je me dis, vivre de la création de contenu peut-être l'année prochaine, voilà, faudra voir quoi.
Ça a amené à évoluer de toute façon.
Ouais, et le problème aussi, c'est que ça bouge tout le temps parce que, genre là, trimestre 1 2024, catastrophique. Littéralement 0 euro d'encaissé, tu vois. Et puis peut-être que le trimestre 2, ce sera 3 fois trop d'argent encaissé. En fait, les campagnes publicitaires, c'est tellement aléatoire. Et ce qui est chiant, entre guillemets, quand tu es créateur de contenu, c'est que tu vas pas t'arrêter de poster des vidéos s'il n'y a pas de
Ouais.
sponsor. Et quand il y a les sponsors, faut
Ouais.
charbonner. Eh, parce que du coup, voilà, et tu dis oui, bah, cette vidéo elle est pas sponsorisée, elle m'a coûté cher, machin, machin. Et puis quand il y a tous les sponsors qui tombent, bah, tu te retrouves à devoir faire 2 3 vidéos par mois alors que c'est pas du tout ton rythme de croisière. Enfin, tu vois, c'est quand même un délire, ça. C'est quand même pas très agréable, tu vois.
Je voulais revenir sur, tu l'as un peu dit, la place que Twitch prend dans ton business, parce que du coup, il y a beaucoup de création de contenu. Et à la base, c'est les lives qui t'ont fait prendre conscience que, bah, y avait une audience et il y avait une envie. Mais aujourd'hui, Twitch, en termes
Tout
de
à fait.
camembert, justement, de ton temps et...
Le camembert de 2023 par Bastille 8. Dans mes revenus de l'année 2023, il y a 15% de YouTube et Twitch. Donc ça, c'est vraiment la monétisation. C'est-à-dire l'argent qui vient de la plateforme YouTube et qui vient de la plateforme Twitch. C'est-à-dire les AdSense, tu vois. Genre les pubs sur les vidéos YouTube. Additionné aux pubs sur Twitch, j'en mets pas. Additionné aux abonnements payants sur Twitch.
Ah, donc c'est les abos qui rapportent
Ouais. Si tu veux, sur Twitch, ce qui rapporte, c'est les gens qui sub. Donc ils disent, voilà, je te donne 4 euros par mois, juste parce que je te kiffe. Et en contrepartie, il y a une petite alerte avec leur nom qui apparaît, des petites émoticônes personnalisées, etc. Et aussi les lives sans publicité. Voilà. Donc ça, c'est 15%. Ensuite, j'ai 21% de mes revenus qui viennent de prestations design. Donc là, ça va être typiquement Teletra Live ou alors des tout petits trucs que j'ai fait en off, mais en vrai, j'en ai pas fait. Donc ça, c'est l'argent qui vient de moi à The UI Designer, quoi. Il y a 21% qui viennent des formations Figma en 2023.
Okay.
Et j'en ai fait que deux dans deux entreprises. Donc tu te rends compte un peu le poids par rapport au temps passé. C'est normal parce que c'est un savoir-faire que j'ai développé pendant des années, une formation que je crée depuis des ans aussi. Donc voilà. Et le reste, 42%, des publicités.
Ah ouais.
Que des sponsors. Alors que l'année 2022, les sponsors ne représentaient que 21%. Donc j'ai doublé les prix publicitaires. Ça ne me permet pas encore de vivre parce que c'est moins de la moitié de mon camembert. Mais si ça reste fixe ou ça continue à se développer, ça peut devenir très intéressant, on peut dire, pour mon entreprise.
Et c'est ton agente qui t'a aidé à faire progresser ça ?
Oui, 100%. 100%. Avant qu'elle soit là, même l'année dernière, elle était là. Hein. Je l'ai eu super tôt. Je l'ai eu même quand j'étais encore en CDI, je crois.
On arrive à la fin de ce podcast. J'ai deux dernières questions.
Quel dommage.
Quel dommage. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on va en discuter off. Peut-être que...
Les amis, youtube.com/bastiui, à l'heure où vous écoutez ce podcast, la vidéo est sortie. Elle s'appelle J'arrête le freelance. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle J'arrête le freelance ?
Parce que c'est un putaclic de folie.
Non ? Non ? J'arrête le freelance ? Je ne suis plus freelance, Charlie.
Sérieux ?
Ouais, je suis président d'une société.
Ah.
Je suis passé en SASU. Et oui, tu t'es fait avoir par le titre.
Ah là 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 là.
Non, en vrai, c'est... j'ai pas été longtemps freelance, mais on parlait d'anxiété tout à l'heure, je dois te le dire. C'est bien pire maintenant que je suis en société, je déteste. Ah ouais, non, c'est freelance x10 en vrai, au niveau des conneries à gérer, quoi.
Ouais.
Et ça, bah, du coup, toi, tu ne peux pas encore en parler. Alors, pour expliquer aux auditeurs, peut-être, j'ai dû changer de statut parce que j'ai atteint un certain seuil.
C'est ça.
Et aussi, mon comptable m'a conseillé de passer en société car je payais beaucoup, il y avait beaucoup d'argent sortante. Par exemple, je dis n'importe quoi, je gagnais 100 000 en freelance, mais j'avais dépensé 70 000, tu vois. Parce que je paye mon agent, je la paye, je paye mes monteurs, etc. etc. Et du coup, j'ai beaucoup de out dans mes comptes. Et du coup, quand tu as beaucoup de out, il faut mieux être en société. Sauf qu'en société, tu ne payes pas que 22% d'URSSAF sur ce que tu gagnes. Tu payes tous les mois. Si tu gagnes 0 euros, tu payes quand même. Là, j'ai payé l'impôt sur les sociétés. Enfin, tu vois, c'est un bon délire aussi, quoi.
Une bonne raison d'augmenter les prix. Le gars cruel qui lâche pas l'affaire.
Pour l'année prochaine, ouais.
C'est pas moi, c'est l'État.
C'est vrai, je devrais mettre Société Bastiui vous facture désormais x2.
Revenons à nos moutons. Donc, nos deux dernières questions. Bastien, est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
C'est la question la plus dure de l'interview. C'est quoi pour toi, Bastien, un entrepreneur à contre-courant ?
Wow. Un entrepreneur à contre-courant ? Déjà, très bonne question parce que je me sens pas trop dans la team entrepreneur, tu vois, sur Internet et tout.
Okay.
Du coup...
Tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui font des lives avec leurs clients et qui les facturent ?
Non. Justement, j'allais répondre moi, mais je voulais pas y arriver tout de suite. J'allais faire ma petite intro. Les entrepreneurs, je me sens pas trop dans la team des entrepreneurs qu'on peut voir genre sur Internet avec... voilà, mes solutions pour les KPI, comment démarcher, comment faire des vues sur LinkedIn pour convertir ma formation et mon MOOC en PDF et assister à des webinaires et tout. Je me sens un peu hors de la team entrepreneur, même je m'en moque souvent, voilà, parce que je trouve un peu rigolo. À la marge, sur certains réseaux, ils sont assez ridicules, tu vois. Et du coup, bah, je dirais que c'est un peu ce que je fais moi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai créé un peu mes propres règles de comment je voulais gagner de l'argent avec mes clients. Encore une fois, j'ai eu la chance que ça fonctionne. Je ne suis pas arrivé avec cette idée en disant « il faut que je la concrétise », elle est arrivée toute seule, tu vois. Donc cette idée s'est créée au fur et à mesure quand j'écoutais un peu ce que voulaient faire les gens et ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance que tout ça s'aligne pour que ça plaise aussi bien aux clients qu'à moi, qu'à mon audience. Mais voilà, je dirais que c'est quelqu'un qui prend les paramètres et qui va créer une offre qui n'est pas une des offres qui est proposée dans les 27 tutos que tu trouves sur Twitter et LinkedIn. Et quelqu'un qui va vraiment écouter le marché et qui va essayer de faire ce qui peut lui plaire et plaire à ses clients. Et pas juste dire, ok, j'ai monté un SaaS avec un abonnement à 25€ par mois, ce qui me octroie du revenu passif et j'ai réussi ma vie, quoi. Ça m'intéresse pas trop en vrai.
Ok.
Mais grand respect à ceux qui le font. Mais je suis pas de tendance, quoi. Je suis vraiment en mode, je fais ce qui me plaît, j'ai réussi à le monétiser, j'en suis très heureux, tu vois. C'est plus ça.
Donc l'entrepreneur à contre-courant, pour toi, c'est celui presque qui arrive à créer son propre espace et à s'y sentir bien.
Tout à fait, et pour peut-être inclure d'autres personnes que moi, parce que c'est un peu auto-centré, je dirais qu'un entrepreneur à contre-courant, c'est quelqu'un, quand tu le regardes, t'as pas l'impression qu'il travaille, tu vois, t'as l'impression qu'il s'amuse. Genre, je pense à, par exemple, des streamers jeux vidéo ou des chefs d'entreprise qui sont en live et qui montent des plateaux sur Twitch et tout. Genre, quand t'es candide, tu te dis, ah bah, ils kiffent entre potes, tu vois, ils font une émission. Mais en fait, non, tu vois. Et genre, je pense à Kameto avec ses équipes de e-sport et tout ça. Je pense à Domingo avec ses différents podcasts, émissions et tout. En fait, tu ne penses pas trop à Domingo l'entrepreneur quand tu le vois. C'est quand tu te poses deux secondes, tu te dis « Ah mais oui, mais en fait, c'est son agence, comment il gère son agence et tout. » Et donc, je pense que c'est ça, être un peu à contre-courant du truc. Mais après, contre-courant, ça veut dire quoi ? Il faudrait déjà définir ce qu'est le courant, mais selon moi en tout cas. Comment être un entrepreneur ? Il faut être juste bien dans ce que tu fais et pas juste appliquer des modèles pour gagner de l'argent. En fait, le truc, c'est que entrepreneur sur les réseaux, dans les courants, comme tu dis, c'est comment gagner de l'argent à chaque fois. Tu vois, genre, c'est juste moi, j'avais envie de faire un truc et j'ai eu de la chance de trouver comment gagner de l'argent avec. Et les gens, ils disent comment gagner de l'argent, je vais faire ça, tu vois. Alors que c'est pas forcément ce qu'ils aiment, c'est ça qui est des fois triste aussi, tu vois. C'est peut-être ça qui peut être intéressant.
C'est un peu ce que je cherche avec cette question. Souvent, les entrepreneurs à contre-courant sont ces personnes et ces personnalités qui ont tendance à pas vouloir suivre, je dirais pas les règles ou les codes, mais en tout cas le plan, tu vois, la stratégie toute faite de dire, bah, comme tu disais, le SaaS ou des choses comme ça, ou ah, tiens, t'as des clients de temps en temps, mais tu voudrais avoir des revenus récurrents, bah, créer un produit digital ou un truc comme ça, pas parce que ça te fait kiffer. Pas parce que tu penses que ça sert à un but un peu plus grand que ce que tu as dans ta vie, juste parce que bah, ça peut rapporter de l'argent.
C'est un peu ça. Mais je suis assez novice sur tous les sujets entrepreneuriat, tu vois, je suis un bébé de ça, moi.
Il fallait sur LinkedIn, hein.
Ouais, mais je suis un bébé de ça, et en plus, tu vois, genre, je le mets de côté volontairement, c'est un peu, genre, oh, ça n'existe pas, tu vois, j'essaie de rester dans ma petite bulle... Ma petite bulle où tout va bien. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. C'est dans ma personnalité aussi, tu vois.
Dit-il avec sa su.
Ouais. Bah oui, malheureusement. Du coup, j'en rigole. J'en rigole, mais ça me ressemble pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens, et quand ils vont avoir leur entreprise, ils disent « Ouais, j'ai une boîte et tout, nanana. » Moi, genre, vraiment, je n'en parle jamais. Tu vois, ça me saoule. Je fais « Ouais, j'ai une boîte, ça me casse les pieds, tu vois. » Moi, je voulais juste faire le pitre sur Internet. Mais bon, bah, maintenant qu'il y a de l'argent qui rentre et qui sort, il faut une boîte, quoi. C'est chiant, tu vois. C'est ça, ouais. Et ça me ressemble bien dans ma personnalité, en tout cas.
Bah, c'est pour ça que ça marche aussi, je pense.
C'est pour ça que ça marche, mais ceux qui seraient plus, on va dire, le nez dans le cambouis à s'intéresser aux entreprises en elles-mêmes et tout, peuvent aussi faire marcher beaucoup mieux que moi. Donc, il y a des points positifs et négatifs aussi, tu vois. Les gens qui disent « Ouais, j'ai une boîte, j'ai fait ça, du coup, j'ai recréé une autre boîte, nanani. » Ils sont très chauds aussi, en un sens. Ils s'intéressent à des trucs très pointus, ils sont assez forts dans leur domaine. Ce qui va me manquer un moment, tu vois. Mais tout le monde a ses plus et ses moins, tu vois. Il y en a qui adorent lancer des business. Hein. Ils se disent « Ah putain, je parlais avec un gars et j'ai vu que dans la région de machin, il y avait moins de boulangeries et tout, donc j'en ai ouvert trois. » Enfin, tu sais, des gens, ils adorent faire ça, tu vois. Ouais. Et ça les passionne de passer tout leur temps jusqu'à 22h à optimiser des trucs et tout sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas. C'est aussi intéressant. Ouais.
Plus tu fais quelque chose, moins ça devient difficile. Ce qui est aujourd'hui, moi, mon business, il a 3 ans. Quand tu as racheté 3 boîtes, que tu as monté 5 startups, la sixième, c'est comme si tu montais à vélo, tu vois.
C'est vrai. Et puis il se dit, oh, pourquoi pas en remettre une autre, du coup je suis chaud.
Ouais, et je pense qu'il y a vraiment un aspect dopamine, excitation, plaisir de créer, parce que quelque part tu crées quelque chose ou tu recrées quelque chose. Je pense que ça motive le truc, quoi.
Ouais, tout à fait.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bastien ?
Ah bah moi je suis sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Basti UI, sauf Instagram où il y a un sombre compte qui m'a volé mon pseudo. Donc je suis Basti II avec 3 i. Mais si vous tapez Basti UI, vous me trouvez tout de suite. Et sinon principalement là où je crée mon contenu, c'est YouTube et Twitch. Twitch, je suis en live 3 fois par semaine, le lundi matin, le mercredi après-midi et le vendredi matin. Et sur YouTube, je sors 2 vidéos par mois à peu près sur la chaîne principale Basti UI. Et j'ai aussi une chaîne secondaire où je poste beaucoup, beaucoup plus et qui, bien souvent, ça fait beaucoup, beaucoup plus de vues. Ça va être une chaîne de réaction plus à l'actualité, en fait, où je vais parler des sujets, on va dire, d'actu, de société, de graphisme, de design au sens plus large. Et je discute avec les gens sur ça, des petites vidéos de 10 minutes. Voilà.
Une chaîne qui s'appelle
Basti sans MS. Bien sûr, c'est Basti sans MS, c'est-à-dire c'est le, bien sûr en hommage à la police comics sans MS, évidemment, oui, qui avait été créé au début comme un petit exutoire de vidéos un peu moins travaillées pour poster plus, de façon plus récurrente et qui est devenue une chaîne aussi importante que la principale, ce qui est assez rigolo. On a la chaîne de contenu avec Basti UI, on a la chaîne qu'on appelle de flux avec Basti sans MS qui va réagir plus à un flux d'actualité qui s'écoute un peu comme une petite... émission quotidienne, tu vois, ou hebdomadaire, tu vois.
Tout à fait.
Où j'ai 2-3 sujets par semaine qui sont mis en avant, quoi.
Eh bien, je mettrai tous ces liens dans la description de l'épisode.
C'est adorable.
Ainsi que le lien vers la nouvelle vidéo qui sera sortie à l'heure où l'épisode sera diffusé. Merci, Bastien, c'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu durer facile une bonne demi-heure de plus, sans trop de problèmes.
Écoute, je reviendrai l'année prochaine, si c'est ça.
Il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Merci Bastien.
Merci encore pour l'invitation, c'était très cool.
Super.
Merci beaucoup.
Ciao.
Ciao.
Tu as une question ou une suggestion sur ce podcast ? Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de client ? Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. À très vite !